Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Du trisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
du trisac.
Bon, aujourd'hui, on apprend qu'au Brésil, on compte 400 000 morts du coronavirus. L'Inde, plus de 200 000 morts. Puis on se dit, bah, c'est loin de nous autres, là, qui s'arrangent avec leurs problèmes. Sauf que ça risque de nous rattraper. On en parle avec la docteure Joanne Liu, qui est médecin au CHU Sainte-Justine et membre du panel international indépendant sur la COVID-19 et ancienne présidente de l'organisme Médecins sans frontières. Docteur Liu, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous l'entendez ça, qui s'arrange les autres pays là, qui se démerde là. Nous au Canada, on est en train de sortir de la pandémie grâce à la campagne de vaccination. Est-ce que c'est un sentiment qui court?
Est-ce que c'est un sentiment qui court? Je pense que c'est quand même c'est une caricature d'un sentiment. Je crois que les gens ici ont beaucoup souffert, puis je pense qu'il faut être à l'écoute de ça. Mais je crois pas que les gens sont complètement indifférents à ce qui se passe présentement dans cet interpays où, là, présentement, la vague frappe très, très fort. Mmh. Mais c'est sûr que quand on est en souffrance, quand on a passé à travers une épreuve, on a toujours une écoute qui est diminuée, une empathie diminuée. Donc, moi, je peux comprendre jusqu'à un certain point, mais je pense qu'il faut voir un peu plus large puis un peu plus loin.
Là, on a appris qu'il y a eu 1 milliard de doses administrées sur la planète. Là, ça, déjà, c'est une bonne nouvelle, hein?
Oui, je crois qu'il faut quand même être capable, sans être dans un discours jovialiste, être capable de célébrer certains acquis, je pourrais dire, actions héroïques. Et je pense que le fait qu'on a vacciné autant de gens, c'est héroïque à quelque part. Le fait qu'on a développé des vaccins aussi rapidement, c'est héroïque. Je pense qu'après ça, c'est plus de regarder comment dans cette dynamique d'héroïsme-là, peut-on aussi s'assurer que tout le monde va arriver à la ligne de fin par rapport à la bataille contre la COVID en même temps, parce que c'est important, parce qu'on ne peut pas laisser le virus en pleine liberté se muter dans différents coins de la planète sans frein. Parce que au bout de la ligne, ça va peut-être revenir nous frapper plus tard.
Ouais, parce que c'est ça là. Au début, c'est une caricature, Dr. Liu là, mais l'empathie, la compassion de voir les gens en Inde souffrir autant, de voir au Brésil autant de morts, quel est le scénario planétaire possible si les pays qui font pas preuve de solidarité dans ce qui a trait à la vaccination des populations, ce qui peut arriver, par exemple, au Canada, si on ne se préoccupe pas de ce qui se passe au Brésil, en Inde, par exemple, si on ne les aide pas?
Ben, je crois que, moi, mon cœur d'humanitaire dit toujours que la solidarité, c'est toujours mieux. Mais en plus, que je pense de façon pragmatique, c'est mieux parce que, un, on est tellement interdépendant et interconnecté que ce qui se passe, les tragédies qui se passent au Brésil et en Inde aujourd'hui vont avoir un effet direct et indirect sur le Canada. Notamment, si on prend l'Inde, on sait que l'Inde, c'est un peu la pharmacie du monde au niveau de produits génériques. S'ils ne sont plus capables de produire ces produits génériques-là, éventuellement, on va avoir des ruptures de stock ici. Même chose aussi, on sait qu'ils fabriquent 60% des vaccins du stock mondial. Donc, s'ils sont pas là pour le faire, si leur économie est complètement effondrée et que ça ne fonctionne plus, ben oui, il va avoir au bout de la ligne des effets, des répercussions. Donc, on ne peut pas faire semblant que ce qui se passe ailleurs ne nous affectera pas. Peut-être pas dans l'immédiat, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, ça va revenir vers nous. Si on parle juste de par rapport à ça, et sans parler du virus, qu'on est quand même toujours l'inquiétude de, comme j'ai dit auparavant, qu'un virus qui se promène en pleine liberté, qui n'a pas de frein, ben toujours, ça veut dire qu'il mute et il peut avoir des mutations qui vont faire qu'on va avoir un virus qui va être extrêmement transmissible ou peut-être plus virulent.
Parce que là, vous nous amenez au sujet incontournable des variants. Les variants, on les connaît déjà et les variants doivent nous inquiéter.
Ben, Je crois que oui, je crois que tout le monde est quand même assez inquiet par rapport à ça. On ne sait pas encore l'ampleur, jusqu'à quel point ça contribue aujourd'hui aux différents phénomènes qu'on voit au Brésil et en Inde, mais je crois qu'on ne peut pas dire que nous, on est complètement protégés de ça. On est en train d'avoir un peu plus le déçu parce que la vaccination avance et avance assez bien de façon relative, dépendamment des endroits dans le pays. Donc, on est dans un, et dans différents pays, c'est la même chose. Donc, on est dans une position que je vous dirais qui nous permet d'avoir un optimisme avec précaution. Mais il demeure que s'il arrivait un nouveau variant qui échapperait à l'impact d'un vaccin, à la protection d'un vaccin, ben on tournerait peut-être à une case zéro. Je ne pense pas que ça va être un scénario aussi horrible que ça, mais ça pourrait diminuer l'efficacité de certains vaccins. Je crois que ça, on ne peut pas l'occulter comme possibilité.
On a parlé, Dr Liu, de l'Inde, du Brésil. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vous préoccupent présentement en ce qui a trait à la pandémie?
Je crois qu'il y a plein de pays en Afrique dont on n'entend pas parler parce que il n'y a pas autant de tests, donc on n'a pas l'image globale, mais le Nigeria, qui est quand même le pays le plus peuplé d'Afrique, on sait que à quelque part, eux aussi font face à beaucoup de cas, eux aussi font face à des ruptures de stock en oxygène, mais on n'en entend pas autant parler parce que c'est pas aussi notoire, mais ça se passe présentement. Et je crois que tranquillement, on va voir des tragédies comme ça faire surface.
À quel point on a parlé du nationalisme vaccinal, Dr Liu, qui pouvait mettre en danger finalement la reprise de la vie normale, là, parce que si chacun garde les vaccins pour soi, la situation ne s'améliore pas. On a vu quand même aussi que les États-Unis nous ont envoyé des vaccins, AstraZeneca. Est-ce que le nationalisme vaccinal vous inquiète?
Je veux dire, le nationalisme vaccinal, oui, est inquiétant. On peut le comprendre et il est quasiment inévitable à quelque part, mais ça ne veut pas dire que on soutient l'idée. Et je crois que oui, c'est important qu'on protège les gens ici jusqu'à une certaine mesure. Mais je pense que quand on a atteint justement une partie, une masse critique de gens vaccinés, je crois qu'on peut penser à commencer à partager des vaccins, en sachant que des pays comme le Canada, c'est un endroit où on a acheté beaucoup de vaccins en préachat, et donc plus que la population canadienne. Et donc, à ce moment-là, moi, j'encourage énormément à partager en temps réel des vaccins qu'on a surachetés par rapport à la population. Je pense que c'est le minimum à faire là dans la conjoncture des choses qu'on a aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a un organisme quelconque, est-ce que c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui peut gérer ça, là, la distribution un peu plus égalitaire des vaccins?
Ben, en fait, il y a eu cette plateforme-là qui a été créée, hein, qui était la plateforme qu'on a appelée ACTA, qui était l'accélération de la recherche et développement sur trois piliers, qui étaient les vaccins, les diagnostics rapides et les traitements. Celui qui était le plus développé, c'est la plateforme COVAX, le pilier vaccin. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on a eu 49 millions. À l'heure actuelle, ce que je sais, c'est qu'il y a 49 millions de vaccins qui ont été redistribués à partir de cette plateforme-là dans 121 économies. Est-ce suffisant? Non. On sait que les pays à bas et moyens revenus représentent quand même 85% de la population, d'une population mondiale autour de 8 milliards. Donc, c'est sûr qu'on est loin du compte pour protéger ces économies-là.
Est-ce que la COVID-19 risque de devenir une espèce d'infection qu'on va retrouver dans certains pays, surtout les pays moins développés?
Ah, ça, c'est un excellent commentaire. Merci pour la question. Je crois que oui, puis moi, c'est vraiment la chose c'est vraiment le phénomène qui me taraude vraiment dans le fond de mon cœur, c'est que est-ce qu'on va faire face à une, ce que j'appelle une pandémie négligée dans les pays à bas et moyen revenu, parce que les pays à haut revenu vont s'en être, je dirais quelque part, pas débarrassés, mais vont avoir contrôlé le phénomène, et on va se retrouver, comme avec le VIH, avec des pays qui où c'est toujours pas complètement sous contrôle. Et ça, c'est vraiment la chose qui nous guette et qui peut aussi avoir des répercussions, comme on a dit, parce que ça va permettre aussi, ça va créer, ça va donner toujours une plateforme pour que le virus puisse se muter.
Mais il n'y a pas d'autorité supérieure pour vérifier l'état des choses à travers les continents, à travers tous les pays, pour s'assurer justement que ça n'arrive pas, là, que la COVID-19 ne devienne pas une des éclosions ou une infection réservée aux pays les moins développés? Il n'y a personne qui surveille ça, là.
Je veux dire, il y a une certaine surveillance, mais je veux dire, c'est une surveillance sans autorité. Donc, l'OMS a quelque part fait une surveillance, puis vous avez vu, il y a différents aussi de consoles où on sait qu'on regarde en temps réel le nombre d'infections qui se passent. Mais c'est au niveau de la gouvernance. C'est que quand on a un phénomène comme ça qui affecte la planète entière, comment on se gouverne ensemble pour s'assurer que ça soit égalitaire et équitable. Et on n'a pas créé ça. On n'a pas créé ça post-Ebola en 2016. On l'a pas créé post-MERS. On l'a pas créé post-Zika. Est-ce que là, ça va être l'appel qu'on dit, ben là, on s'organise mieux la prochaine fois quand on a des pandémies à grande échelle comme ça pour pouvoir avoir une réponse qui va être équitable et égalitaire. Ça va être un peu l'appel qu'on va faire le panel indépendant. Est-ce qu'on est un moment dans notre histoire collective où qu'on dit on réinitialise cette réponse-là ensemble? Moi, j'espère, parce que, je veux dire, quand on regarde, il n'y a pas eu aucun événement qui a affecté la planète comme ça. On parle là, de 10 000 de milliards de pertes en GDP qu'il va avoir en produit national brut à travers la planète en 2021. Puis ça va aller jusqu'à 22 000 de milliards jusqu'à 2025. Ça va être énorme, l'impact. On va être pour des décennies à repayer l'impact de la COVID-19. C'est important que la prochaine fois, on soit mieux préparé.
Parce que sinon, ça ne sera pas la dernière pandémie.
Non, ça ne sera pas la dernière, parce que si on regarde de façon générale le phénomène qui s'est passé dans la dernière décennie, le nombre de zoonoses qui sont devenues des épidémies régionales s'est multiplié et la récurrence s'est rapprochée. Et avec, je vous dirais, la pression qu'on fait sur l'environnement, je crois qu'on va être confronté à cette réalité-là plus souvent qu'on pense.
En conclusion, Dr. Liu, est-ce qu'il y a des critères, là? Est-ce qu'il y aura des critères? Est-ce qu'il y a des critères pour déclarer la fin de la pandémie à l'échelle mondiale ou c'est absolument impossible?
Très bonne question et je ne crois pas parce que en fait ce qui a été très bien défini c'était ce qu'on appelle l'urgence sanitaire de portée mondiale. Ça c'était ce qui a été déclaré le 30 janvier 2020. En fait le terme pandémie a été utilisé à partir du 11 mars 2020 mais on s'est pas complètement entendu sur une définition et je ne crois pas qu'il y ait une définition mais je veux pas trop m'avancer mais je ne crois pas qu'on ait une définition de unplug c'est terminé encore. Donc ça va se dévoiler puis probablement se profiler au fur et à mesure. Mais c'est une bonne question. Et on se demande, est-ce qu'on va rentrer ça dans le vocabulaire avec une définition, un code de définition clair pour le futur? Et encore là, on n'a pas légiféré là-dessus collectivement.
Êtes-vous optimiste?
Est-ce que je suis optimiste? Grosse question. Je vous dirais que... je vous dirais que je suis pas pessimiste. Donc voilà. Okay. Mais, donc je suis pas pessimiste parce que je pense qu'il y a eu certaines avancées par rapport à l'Ebola sur comment collectivement on a fait de la recherche et développement. Mais en même temps, quand on entend des énoncés par Bill Gates hier qui dit ben il faut pas partager la formule de vaccin avec les pays en voie de développement, ben tu te dis, ben peut-être qu'on n'a pas si avancé que ça.
Eh hey boy. Docteur Joanne Liu, merci d'avoir pris le temps de nous parler. C'est toujours un plaisir.
Merci, au revoir.
Au revoir.